Bonsoir et merci Mamine pour tous ces commentaires. Maintenant, passons à autre chose, à Radio Grouga.
Radio Grouga, la radio qu'elle est chouette à écouter.
And now it's time for Grouga Radio.
Maintenant, Radio Grouga.
Radio Grouga.
And now Grouga Radio.
Radio Grouga.
Grouga Radio.
In direct live, you're listening to Grouga Radio.
Et maintenant, Radio Grouga.
Bien, bonjour à toutes et tous. Nous sommes en compagnie de deux auteurs qui ont une rude activité et une rude actualité cette année, hein, puisque il y a deux jeux qui sont sortis. Bonjour Bruno Catala.
Bonjour Boîtecast.
Et bonjour Ludovic Maublanc.
Bonjour.
Oh joli, joli. Il faut savoir que Ludovic Maublanc a quand même une extinction de voix et là il vient de faire une performance. Je crois qu'il a brûlé ses cordes vocales pour la journée. Il faut savoir qu'ils sont en train de jouer à une des deux sorties du salon de Essen les concernant, c'est-à-dire Mr Jack à New York.
Voilà, tout à fait.
Alors c'est quoi cette histoire? Le jeu fonctionnait déjà très bien, il faut qu'en plus il se casse à New York et qu'on fasse une nouvelle partie.
Bah disons que Mr Jack, c'est une longue histoire entre Ludovic et moi, et quand on a imaginé le premier jeu, on n'avait jamais imaginé qu'il puisse avoir autant de développement. Si ce n'est qu'après, en ayant fait plusieurs centaines de parties, on a eu envie d'un nouveau plateau. Sauf que pour ce nouveau plateau, il fallait quand même une justification, et en faisant des recherches sur l'histoire de Mr Jack, on a découvert qu'un des personnages de l'époque, Tumble T, a été arrêté à Londres en 1888, libéré sous caution le lendemain et a pris le premier bateau pour les États-Unis pour s'enfuir. Et la police londonienne est d'ailleurs partie à sa recherche à New York et ne l'a jamais retrouvé. Et à ce moment-là, sur la côte est des États-Unis, il y a eu une série de meurtres assez similaires à ceux de Londres. Je dis bien similaires, c'est pas tout à fait la même chose. Et aujourd'hui, ça reste une des hypothèses plausibles, même si c'est pas forcément la plus couramment retenue.
D'accord. Et donc, ça veut dire que vous avez transposé cette histoire-là dans... Bon, c'est l'île de Manhattan, en fait, qu'on voit sur le plateau.
Exactement. Les experts à Manhattan, on y est.
Voilà, tout à fait. Et donc, je vois qu'il y a... Oui, il y a un barbu, donc ça va, c'est bon.
Voilà. Voilà.
Alors, Ludovic, quel a été le challenge? Parce que faire le design de ce jeu-là, sachant que vous avez fait plus de 2500 parties, qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau dans cette nouvelle version?
Alors justement, ce qu'on voulait apporter, c'est de la nouveauté. Donc, ce qu'on a amené principalement sur le plateau en lui-même, c'est les sorties mobiles. Donc, le fait que, en fonction du plateau de jeu, les sorties vont pas forcément être au même endroit, en fonction des actions des joueurs. Et l'autre nouveauté, c'est que le plateau est quasiment vide au début du jeu. Il y a très peu de bâtiments. Et les bâtiments vont apparaître au fil du jeu, au fil de la construction de Manhattan. Ce qui fait que le plateau, d'une partie à l'autre, sera complètement figé, complètement différent. Contrairement, voilà, je vais un peu trop vite, contrairement au plateau de Whitechapel, qui lui est figé. Ce qui fait qu'effectivement, au bout d'une centaine, 200 parties, comme on peut les jouer sur le site internet, si on enchaîne les parties très vite, effectivement, au bout d'un moment, on a des ouvertures, on a des lieux qu'on connaît. C'est tel cas, ça peut être avantageuse ou pas, et on finit par les connaître par cœur. Voilà.
Avec ce courage.
C'est impossible, hein. Et n'essaye pas de me couper, j'arrive déjà pas à parler.
La mécanique de base du jeu reste la même, mais bon, s'il y a des bâtiments qui apparaissent, ça veut dire qu'il y a des personnages ou des choses qui permettent de rajouter ces choses-là.
C'est ça, c'est exactement ça. La mécanique de base n'a pas changé, simplement on a 8 nouveaux personnages avec 8 nouveaux pouvoirs et un plateau qui a une topologie différente, qui donne lieu à des stratégies différentes. Et tout particulièrement, ce qui est intéressant, c'est que si les joueurs jouent avec leurs réflexes qu'ils ont acquis sur la version initiale du jeu, ben là, ils vont se faire ratatiner grave.
D'accord. C'est marqué sur la boîte,
hein ? Non.
Ok, donc on a de nouveaux personnages. On peut passer à travers les nouveaux personnages ?
Latimer, qui a été le premier ingénieur noir dans la Thomas Edison Company, réellement. Et donc, son pouvoir, lui, c'est il est en charge de l'éclairage public. Il va rajouter un lampadaire où il veut sur le plateau. Ensuite, on a Alfred Elibitch qui, à l'époque, pense déjà qu'il y a vraiment un problème au niveau du trafic dans New York, au niveau circulation, et qui tente de convaincre tout le monde qu'il faut installer un réseau ferré souterrain. Et donc, il n'est pas suivi à l'époque par la municipalité, mais sur ses fonds propres, il a commencé à creuser des tunnels, etc. Donc là, son pouvoir, c'est d'installer de nouvelles stations de métro. Stations de métro qui fonctionnent comme les égouts de Whitechapel, si ce n'est que là, comme on les construit là où on veut, les courts-circuits, entre guillemets, pour fuir, vont pas être tout à fait au même endroit. Ensuite, on a Claude Ryder. Claude Ryder, c'est une des indiennes de la tribu des Mohawks qui ont été embauchées en partir 1888 à New York pour construire les buildings parce qu'ils ont la particularité de ne pas être sujets au vertige. Et donc elle, son pouvoir, c'est à la fois de poser un nouveau bâtiment de building, donc ce qui va créer des blocages à certains endroits. Et en plus, comme elle connaît ses chantiers comme sa poche, elle peut les traverser gratuitement. Ce qui lui donne parfois des possibilités d'avancer de 5 cases d'un coup. Voilà. On a Miss Emma Grant, qui est la femme du maire. Donc le maire s'appelait Hugh Grant en 1889 à New York, et c'est vrai. Hein. Et sa femme Emma est probablement la toute première écologiste, et probablement même celle qui a fondé le mouvement écologiste, puisqu'elle trouve que bon, l'industrialisation l'urbanisation de Manhattan, c'est bien beau, mais avec des espaces verts, ça serait quand même un peu mieux. Et donc, comme son mari parade dans les réceptions, etc., elle tire les ficelles par derrière et elle va dire non, ici, ça sera pas un lampadaire, ça sera un parc. Et donc, elle transforme ce qui a été construit en parc. Dans le jeu, ça se matérialise en retournant les jetons de l'autre côté.
C'est valable pour les bâtiments aussi ?
C'est valable pour les stations de métro, les lampadaires et les bâtiments, avec comme effet conjoint qu'on peut cette fois-ci aller dans les parcs, on peut les traverser, mais on peut aussi s'y arrêter. Et un personnage qui est dans un parc est toujours invisible, même s'il a des voisins, même s'il est à côté d'un lampadaire. Donc ça, c'est un élément tactique à prendre en considération vraiment de façon minutieuse. Nous avons le capitaine James H. Callahan, H pour Harry, qui est connu parce que bon, il aime bien s'occuper des affaires un peu sordides. Donc ses collègues l'appellent Dirty Harry. Lui, son pouvoir, c'est de bouger les jetons scène du crime, qui tiennent deux cases, qui sont du coup absolument infranchissables, etc., et qu'on peut placer n'importe où sur le plateau. Donc là, lui aussi, il va créer des situations de blocage, d'accès, enfin, etc. C'est assez intéressant. En blanc, nous avons Edward Smith, qui à l'époque est en poste dans le port de New York pour le trafic maritime. Donc évidemment, son pouvoir va être de déplacer les bateaux. À cette époque, il n'est pas très connu, il le sera malheureusement beaucoup plus tard, en 1912, puisqu'il sera le dernier capitaine, le premier et dernier capitaine aux commandes du Titanic. Enfin, nous avons Tumblety, qui est le personnage qui finalement a donné l'étincelle qui nous a permis de travailler sur ce jeu-là. Tumblety se disait médecin, mais en fait était un charlatan, hypnotiseur. Et donc lui, il a le pouvoir de convaincre d'autres personnages de bouger. C'est-à-dire que quand il est voisin d'un personnage, il peut lui dire « bah tiens, va donc te remplacer avec tel autre ». Voilà. Enfin, nous avons Monk Eastman qui est un petit vieux qui paraît bien paisible, qui tient une animalerie à New York à cette époque. Mais en fait, c'est le personnage qui a créé le premier réseau mafieux à New York. Et donc son pouvoir, c'est que soit il se déplace normalement, soit il déplace un autre personnage, n'importe quel autre personnage, du moment qu'il a le même statut que lui. C'est-à-dire que s'il est visible, il peut déplacer n'importe quel personnage visible, et s'il est invisible, il peut déplacer n'importe quel personnage invisible. Et c'est un élément clé, parce que Jack peut donc s'enfuir grâce au pouvoir de Eastman.
Donc dans cette version à New York, il y a les échappatoires qui sont différentes.
Jack peut s'enfuir par la mer. Donc en fait, l'endroit où Smith va poser les bateaux va être particulièrement important pour ça. Okay. La dernière subtilité qu'il y a dans ce jeu, c'est la présence d'un mouchard. Donc le mouchard, c'est un neuvième personnage qui en fait n'est pas activable directement comme les autres. Mais tout personnage qui termine son déplacement sur le mouchard va pouvoir piocher une carte alibi. Et donc à chaque tour, le mouchard va pouvoir éventuellement donner des renseignements aux différents joueurs. Et donc du coup, sa maîtrise est un enjeu prépondérant pour les différents joueurs.
Okay. Et tu vois qu'il y a une île avec la statue de la liberté, et cet endroit est assez isolé.
Exactement. Donc c'est là où est placé le mouchard au début du jeu. On peut y accéder par des jetés. Quand on la quitte, on atterrit à d'autres endroits. Et c'est un personnage qui est sur la statue de la liberté est forcément invisible aussi. D'accord. Parce qu'il sera tout seul. Quoi.
Okay. Ludovic, à quel personnage est-ce qu'on a échappé en se disant non, pas celui-là?
Je sais plus à quel personnage on a échappé, mais c'est vrai qu'quand on a commencé le jeu, on a commencé plus ou moins avec les mêmes personnages que Mr. Jack normal en fait. Et puis au fur et à mesure qu'on développait le jeu, les nouveaux personnages sont apparus petit à petit en fait. Mais je crois que c'est le personnage noir de Monk Eastman qui nous a donné le plus de fil à retordre, parce qu'il nous fallait à la fois un personnage puissant, un peu comme Goodley dans le jeu de base en fait. Puissant pour aider Jack, mais sans non plus être trop déséquilibrant et sans qu'il soit automatiquement un choix trop facile à faire. Donc je pense que c'est celui sur lequel on a le plus travaillé en fait. Pendant longtemps, les personnages, c'était noir, vert, rouge. On jouait comme ça, en fait. Et c'est Bruno qui a fait les recherches et qui a fini par coller une identité sur chaque personnage.
En fait, c'est là où ça a commencé à sentir bon. C'est qu'on a fait un jeu mécanique. Et puis après, on a recollé à la réalité. Et ce qui a été très rigolo, c'est que quand j'ai commencé à faire mes recherches, pour chaque personnage dont on avait imaginé un pouvoir, je me suis rendu compte qu'il y avait un personnage historique qui avait existé, qui avait fait exactement la même chose à ce moment-là. Et là, tu te dis, bon, bah forcément, on est sur la bonne voie, quoi. Et même le dernier moment où on a transpiré, c'est que d'un seul coup, je me suis dit, mais la Statue de la Liberté, elle existait en 1889. Et je suis vite parti sur Wikipédia pour me rendre compte qu'elle avait été installée en 1884, soit 5 ans plus tôt. Donc là, tu te dis, youpi, tout va bien.
Ok, donc avec Mr. Jack à New York, non seulement on revisite le style Mr. Jack, mais on apprend des choses sur New York, donc c'est bien.
Ouais, tout à fait, ouais.
Voilà.
Et puis, je pense une chose qui est importante aussi, c'est que sur le développement de ce jeu, ça a été particulier parce que pour la première fois, on l'a développé online. C'est-à-dire qu'on a fait appel, on a une communauté de joueurs pointue online, puisqu'on a plus de 90 000 parties qui ont été jouées sur le Mr. Jack standard. Et donc, comme on savait que c'était une version un peu pour joueurs, celui-là vraiment pointu, on pouvait pas se permettre d'avoir un jeu qui ait des failles. Et donc, on n'a pas la prétention non plus d'avoir la science infuse. Donc, on est allé piocher. On était proposé à 5 des meilleurs joueurs de Mr. Jack d'être bêta-testeurs. Le jeu a été codé et en fait, ça nous a permis de faire plus de 700 parties tests. Et après 700 parties tests, on a une statistique de victoire de 53% pour Jack et de 47% pour l'inspecteur, ce qui nous permet de dire aujourd'hui à coup sûr qu'on a un jeu équilibré, quoi.
Ouais, ça me semble assez clair. Ça veut dire quoi? Ça vous donne envie pour faire une troisième version? Je sais que le mot n'est pas bien choisi, mais...
Oui, alors après, hein, qu'on a prévu quoi? Mr. Jack à la plage, Mr. Jack fond du ski, et je crois que ça dépendra du succès du dernier, on verra si on fait après. D'autres Mr. Jack, je crois que Bruno a plein d'idées à ce sujet.
Non, on a décidé que de toute façon, on arrêterait avant Mr. Jack ami pour la vie.
D'accord. Merci messieurs Bruno Cotala et Ludovic Maublanc pour Mr. Jack à New York. On se retrouve pour la deuxième sortie des Sun dans peu de temps. Merci, au revoir.
Adieu donc.
Oui, d'accord.
Au revoir.
Et bravo.
Et retrouvez d'autres podcasts consacrés aux jeux de société sur le site internet www.podcast.net.
Radio Gruga, c'est bien.